Et voilà, vous avez donc reconnu le générique, et donc il s'agit du Festival de Radio France Occitanie-Montpellier qui se tient le 9 au 27 juillet, dont nous arrivons plus ou moins vers la fin. Et c'est l'émission donc, qui passe tout le temps sur FM+, sur votre 91.00. Voilà. Alors aujourd'hui, eh bien, nous avons rencontré un chef d'orchestre, un de plus, vous allez me dire. Et c'est en fait le chef d'orchestre donc, qui s'appelle Louis-Noël Bestion de Camboulas. Et c'est lui qui dirigeait et qui a reconstitué en partie avec le Centre de musique baroque de Versailles cette IC, cette pastorale héroïque de André Cardinal Destouches, qui date de 1697. Alors j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur de Camboulas, et donc vous allez écouter cette interview. Alors vous allez écouter l'interview intégralement et vous aurez un petit peu de musique au milieu. Ça sera du Destouches et c'est un enregistrement que Monsieur Bestion de Camboulas avait son ensemble Les Surprises à réaliser. On en rediscutera à la fin. Donc voici Monsieur Louis-Noël Bestion de Camboulas. Louis-Noël Bestion de Camboulas, vous faites partie d'une grande famille musicienne, si j'ai bien compris. Alors, il faut dire que, juste, je ne veux pas insister, mais votre nom est quand même assez original. Hein. Je ne sais pas d'où il vient, c'est quelque chose...
Oui, en fait, en plus, il ne vient pas de très loin, parce que c'est plutôt un nom du Sud, hein, quand même. Camboulas, c'est vraiment du Sud. Et Bestion aussi, en fait, donc, c'est une alliance assez récente de familles. Il me semble que c'est à la fin du 19e ou début 20e où c'est Monsieur Bestion ou Madame de Camboulas. Enfin, voilà, et qui se sont mariés, les deux noms ont été gardés. Et c'est vrai qu'il y a un lieu dit qui s'appelle de Camboulas en Aveyron.
Ah, d'accord.
D'accord.
Et j'ai cru comprendre que vous étiez au moins 5 frères ou sœurs, j'avoue que j'ai
cinq frères, exactement.
5 frères à faire de la zizik.
Et à faire de la musique à temps complet.
D'accord, parce qu'il y a un nouveau frère qui dirige aussi, il me semble.
Oui, ouais, j'ai un frère qui est chef de chœur, qui s'appelle Simon Pierre.
Voilà, c'est ça.
Alors, on a tous les deux des noms un peu compliqués. Les autres ont des noms plus simples.
Mais
nous, on a des noms compliqués et des noms de famille.
La totale. Bien, alors ici cette pastorale héroïque. D'abord, le compositeur, donc qui est particulier.
Destouches,
oui, il est particulier parce qu'on ne connaît pas grand-chose. Si, on a eu Caliroé ici, il y a quelques années,
ouais,
voilà,
bien sûr, ouais.
Dirigé par Niquet.
Pour les Montpellierains, finalement, il est connu, Destouches, pour les Montpellierains.
Voilà. Et puis, que dire, que Louis XIV était content de retrouver, soi-disant, la musique de Lully.
C'est ça.
Bon, alors, je ne sais pas si c'est un plus ou un moins.
Eh bien, en fait, je crois qu'il a réussi à reprendre ce que Louis XIV aimait bien chez Lully, en ayant quand même sa patte à lui. Parce que je trouve qu'on est plus trop non plus dans de la musique de Lully,
mais oui.
Il y a déjà plein de petites inventions qui annoncent le XVIIIe siècle. Quoi.
Parce qu'il était mort depuis une dizaine d'années, je crois.
Ouais, c'est
quand
ça, 10 ou 15 ans, je ne sais plus précisément. Mais,
ça, oui.
Mais déjà, le style commençait à évoluer. Et puis c'est vrai que Destouches, c'est quand même vraiment la nouvelle génération, à ce moment-là en tout cas.
Mais c'est quand même
Il avait 25 ans quand il a écrit IC, quoi, quand même.
C'est quand même le chaînon manquant, j'ai envie de dire, entre Lully et Rameau.
Oui, c'est exactement ça, oui. Alors, c'est vrai que c'est cette période que finalement on laisse un peu plus de côté, parce que y a les deux grands noms, Lully et Rameau, et cette période où on a des gens comme Campra qui sont un peu connus, donc Destouches, bon, qui est très peu connu, mais en fait, Destouches, peut-être, il est assez peu connu aussi parce que il a écrit surtout des opéras et très peu d'autres choses, donc il y a juste deux cantates en petit effectif, profane, et sinon c'est que des opéras, donc forcément c'est pas facile à remonter, quoi, aujourd'hui. Alors que finalement, Rameau, on le connaît aussi parce qu'il y a plein de pièces de clavecin qui sont très connues, qui sont jouées par tous les pianistes aussi.
Puis il y a une tonicité d'un Rameau que bon...
Oui, c'est sûr. Rameau, c'est, on peut dire que c'est quand même de l'ordre du génie.
Oui, absolument. Oui.
Et puis Lully, il est connu parce que... là aussi, parce qu'il y a plein d'œuvres de plein d'effectifs différents. Hein, de musique sacrée, de la musique instrumentale, tout ce qui est imaginable.
Alors ce qui est marrant, c'est que la fin de Louis XIV, Lully était mort, Louis XIV n'aimait plus trop l'opéra, Madame Maintenant était passée par là, et c'est marrant que
c'est quand même un retour.
Ouais, ils sont allés écouter l'opéra déjà, ce qui est déjà pas mal.
Ouais. Ben, apparemment, ce qui est assez cocasse, c'est le fait que Destouches, aussi jeune, donc à 25 ans, ait réussi à faire représenter son opéra devant la cour, devant Louis XIV, en ayant presque rien fait avant, en tant que musicien en tout cas. Parce que c'est sa première œuvre. Il avait écrit quelques airs juste avant dans l'Europe galante de Campra. Il y a 3-4 airs qui sont de lui. Donc on sait qu'il a travaillé avec Campra, mais juste avant, en fait, il était mousquetaire, peu de temps avant. Donc finalement, sa carrière de compositeur, c'était vraiment...
Et surtout que ça devait être la période de La Land, non ? C'est pas ça ? Ou c'était fini ?
La période de quoi ?
De La Land, non ?
De La Land, ouais, c'était De La Land, le grand musicien.
Qui était encore plus terrible que Lully.
Ouais, bah, c'est lui qui tenait Versailles à ce moment-là, ouais, complètement, surintendant, ouais. Donc c'est vrai que c'est étonnant, parce que c'est une période qui est censée être plutôt... Enfin, on dit souvent que Louis XIV, en effet, c'était plutôt là, sa période austère. Et puis là, c'est plutôt une musique... la pastorale héroïque, de toute façon, ça mêle un peu du tragique et aussi du comique, quand même,
oui,
beaucoup de comique.
Déjà, on retrouve la classification presque de Rameau. C'est déjà presque,
ouais.
C'est plus tragédie lyrique.
Ouais,
c'est
ça. On est vraiment plus dans une tragédie lyrique.
Pastorale
tout court. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est vrai que la pastorale héroïque, il y en a eu, en fait, finalement, pas tant que ça non plus dans l'histoire du 18e, mais il y en a eu un peu pendant tout le 18e. Rameau, il en a écrit aussi, mais c'est vrai que c'est un genre intéressant, je trouve, parce que ça. Ça mêle les deux.
Alors le problème, moi j'ai un peu regardé la partition qui était à la BNF, puisqu'on peut la regarder. Alors comment vous avez d'abord l'instrumentarium, est-ce qu'on savait, on sait le nombre de musiciens qu'il y avait ou pas, et sinon, qu'est-ce que vous avez fait, sachant que je crois qu'il y a au moins deux versions qui se trouvent.
Sur les partitions, il y a plusieurs. C'est vrai qu'il y a plusieurs versions différentes, parce que elle a été rejouée, c'est aussi une des particularités, c'est que ça a été rejoué plein de fois pendant le 18e, alors que finalement c'est vraiment une œuvre de la fin du 17e, mais ça a été rejoué au moins jusqu'en 1770, quelque chose comme ça. Et avec plusieurs versions différentes, des remaniements, deux Destouches et un peu plus tard de Bertin. Et de Berton, pardon, pas Bertin. Bertin de la Douée, c'est un autre, de Berton. Pour ce qui nous concerne, on a pris, enfin, je dis on, c'est avec le CMBV, parce que c'est un projet qui se fait avec eux. Une version qui a été éditée, un conducteur général, qui était en 1724.
D'accord.
Donc finalement, ce qui est assez loin de la création, quoi.
Oui,
c'est 1724, c'est déjà un autre style. On est en plein dans le début de l'époque galante.
Alors comment faire pour choisir d'abord l'effectif instrumental, par exemple ?
Ouais.
Parce qu'on peut imaginer que 50 ans ou 60 ans plus tard, ça avait augmenté.
On a tous les... Comment dire, les effectifs. On a des documents qui nous disent qu'à l'Académie royale de musique, il y avait tant de violons, tant de hautbois, tant de flûtes, tant de bassons. Aussi dans d'autres circonstances, parce que finalement, c'était pas que jouer à l'opéra. Il y a aussi à Versailles, déjà, quand c'était créé dans des lieux un peu plus petits, ou quand c'était repris pendant le 18e, soit au concert de la Reine, soit au théâtre des petits appartements. C'était des effectifs un peu plus petits. Et ça, on a aussi en fait les notes qui nous disent qui jouait ce jour-là.
D'accord.
Donc c'est assez rigolo. D'ailleurs, des fois, on retrouve des noms de compositeurs qu'on connaît, qui sont soit au clavecin, soit au premier violon. Et ce qui fait qu'on a à peu près les effectifs. Enfin, on connaît les effectifs.
Donc, et vous avez pris ces effectifs-là ou vous avez
Il y a aussi dans tout ça, je dois dire, les questions financières. Hein, on peut pas passer outre ces questions-là.
Parce qu'il y avait combien de musiciens
En fait, ils étaient quand même très nombreux. Hein. Enfin, en tout cas, à l'Académie royale de musique. Donc, dans d'autres lieux, à Versailles, dans des lieux plus petits, ils étaient quand même vraiment moins nombreux. Mais quand on voit les effectifs de l'Académie royale, ils étaient très très nombreux. Et en fait, aussi au XVIIe, à l'époque de Lully, ils étaient déjà très nombreux. Par exemple, dans les années 1720, à l'Académie royale de musique, il pouvait y avoir environ 12 violons.
Ah oui, ça fait gros.
Et ça fait quand même pas mal. Et 8 violoncelles, par exemple. Ça fait assez énorme. Alors évidemment, nous, on n'est pas du tout cet effectif-là, parce que pour des raisons financières, hein, tout simplement. Mais du coup, pour l'effectif que nous sommes aujourd'hui, on part de cet effectif-là de base, un effectif un peu enrichi, et on réduit en fonction, c'est-à-dire en gardant à peu près les mêmes proportions, mais un peu moindres.
D'accord.
Mais finalement, on a toutes les couleurs, c'est juste le nombre qui change un peu. Mais on voit que ça se faisait à l'époque, en tout cas, parce qu'ils avaient les mêmes... Je pense qu'ils avaient les mêmes problèmes financiers que nous. Quoi. Même à Versailles, peut arriver qu'il y ait eu des...
Et le diapason, il n'y a pas de souci majeur, là ?
Le diapason, nous, on est à 392.
Basique.
Ouais, voilà, c'est que finalement, d'après le CMBV, c'est à peu près le diapason bas français qu'on faisait dans les environs de Versailles à ce moment-là. Quoi.
Bon, alors l'histoire, elle n'est pas...
C'est vrai que... Juste sur le diapason, ça change évidemment pas mal de choses pour les instruments, mais c'est surtout pour les chanteurs, en fait, qu'on se rend compte que ça marche, vraiment. C'est-à-dire que ça paraît tout bête, mais un demi-ton, comme quoi, il existe finalement assez peu d'enregistrements d'opéra qui soient à 392.
Même Lully, même, comment dirais-je, Attis, il n'est pas
Alors, je pense que si, le récent, si. Alors, le premier, je ne me souviens pas, mais par exemple, les enregistrements des Indes Galantes, ça a souvent été fait à 415, étonnamment. Et alors que finalement... L'endroit
c'était
où.
C'est pas le diapason de Rameau, ça.
Bah non, pas du tout. Alors. Et on se rend compte que la tessiture où ça sonne bien pour les chanteurs, c'est vraiment en 392. Quoi.
Oui, d'accord.
C'est-à-dire que finalement.
Bon, pas pour les basses, peut-être.
Bah, ça veut dire qu'ils avaient des basses qui étaient vraiment. Enfin, quand c'est écrit grave, c'était vraiment pour des basses. Ouais. Mais souvent, les rôles d'ailleurs de baryton qui étaient plutôt des basses tailles, du coup, ça allait justement assez aigu, quoi. Donc, et pareil, les sopranes. Qui était des dessus, on se rend compte que ça va pas trop haut, ça reste tout dans le médium, et à 392, ça marche très bien. Quoi.
Bon, alors l'accent reconstitué, comment vous faites?
La quoi?
L'accent reconstitué, comment vous faites là?
L'accent, ouais, ça, alors c'est une bonne question.
Eh oui.
Faut toujours trancher. Hein.
Oui. Et donc, vous avez tranché?
Moi, j'ai tranché pour une non-reconstitution. C'est-à-dire que je trouve que. Bon, c'est vrai que
c'est un vrai problème. Hein,
c'est un vrai problème. Mais après, c'est vrai qu'on, de toute façon, on cherche quand même à s'approcher à imaginer en tout cas ce qu'ils faisaient à l'époque. Mais on peut pas enlever le fait qu'on est au XXIe siècle et que moi, ça me paraît toujours un peu bizarre les spectacles où on entend des gens parler comme s'ils parlaient au XVIIe ou XVIIIe. Mmh. Bah, du coup, ça nous fait une espèce, enfin, ça crée une sorte de distance, je trouve, avec nous, quoi, qui peut être voulu, hein, mais. Mais bon, voilà,
non,
c'est un choix, quoi.
C'est Alors l'histoire, elle est pas, c'est bon, c'est pas.
Elle est pas très compliquée, oui, non,
oui,
c'est sûr.
C'est assez direct.
Elle est assez simple, mais bon, je crois que dans cette période des opéras, c'était souvent ça quand même. Parce que des fois, quand on voit les livrets de Rameau.
Oui, surtout ça vole. Exemple, l'année dernière.
Ouais, ça vole pas très haut, quoi. Non. Et Rameau, il a réussi à faire de la super musique avec des livrets pas foufou. Donc là, le livret est assez simple, quoi. C'est vraiment plusieurs intrigues amoureuses. Qui se lie, qui se délie. On a quand même trois personnages qui sont du coup plutôt de l'ordre du tragique, qui sont Issée, donc la personnage principal, Apollon, qui est son amoureux, mais déguisé en berger, parce qu'il n'a pas le droit d'avouer qu'il est un dieu, Hylas, qui est l'amant malheureux, donc ça, c'est les trois personnages tragiques. Et puis à côté de ça, on a les deux comiques de l'histoire, qui sont les deux suivants des personnages principaux, donc c'est Pan et Doris. Et eux, pour le coup, qui vivent vraiment une petite amourette assez légère. Quoi.
D'accord. Moi, c'est marrant parce que ça m'a fait presque penser à de l'opéra vénitien.
Oui, c'est vrai. Il y a un peu de ça avec le côté en bouffe, quoi.
Oui, mélange de tout. Ça passe d'une scène à l'autre.
Ça passe d'une scène à l'autre. Et on, C'est vrai qu'en France, on n'utilisait pas beaucoup le terme opéra bouffe, mais
Non.
ça peut être de cet ordre-là, ouais.
Ouais.
Parce que c'est vrai que les scènes de Pan et Doris sont quand même assez cocasses, quoi. Le texte est. Ouais,
Alors,
c'est
c'est peut-être pas
très
aussi
cruel.
vulgaire que, par exemple, certains cavaliers qui sont quand même.
Non, c'est vrai que. Bah non, c'est jamais dans le vulgaire, mais c'est toujours un petit peu suggéré, quoi.
Oui, c'est
Ouais.
ça,
Enfin,
absolument.
Pan est complètement dans le côté aimons-nous, mais sans lendemain.
Ah, c'est ça, oui.
profitons de l'instant présent. Et puis on verra si la prochaine conquête.
Alors, est-ce qu'il y a une difficulté particulière par rapport aux tessitures des chanteurs ou des choses comme ça? Ou c'est assez direct là aussi?
Par rapport aux tessitures, je pense pas. Après, finalement, la difficulté qu'on peut avoir ou que peuvent avoir les chanteurs, c'est plutôt le fait que, comme c'est une musique qui a jamais été. Enfin, il y a des petits extraits, il y a quelques extraits qui
Oui,
ont été rejoués.
Niké l'a fait, hein. C'est
Qui
Niké, non,
c'est,
c'est
non?
Gal, c'est
Alarcon,
Alarcon,
on a fait des
Alarcon,
extraits,
oui.
ouais. Il en a fait
C'est vu.
une réduction un peu plus
Oui.
courte. Et bon, voilà, là, c'est la première fois
Il y avait des
que.
marionnettes au milieu, non? C'était aussi bien une. Il me semble que
Ouais,
c'était avec des
c'était
marionnettes,
ça,
non?
je
J'ai
crois.
vu ça quelque part.
C'est
Je vais
possible.
retirer.
Et
Bon, bref.
en tout cas, c'est vrai que, bon, voilà, il y a des extraits qui ont été faits une fois, mais ça n'a jamais été refait dans son intégralité. Donc finalement, même si ça reste dans le style de la musique française de cette période-là, là, il faut quand même se le réapproprier. Pour les chanteurs, en tout cas, il faut vraiment se le réapproprier, quoi. Ils ne peuvent pas arriver sur la partition et se dire, ah bah oui, ça je l'ai déjà entendu, je l'ai dans le corps. Il faut vraiment qu'ils se le mettent dans le corps.
Il y a un enregistrement de prévu à la suite, hein?
Oui, du coup, on va l'enregistrer, puisque donc là, on a trois concerts cet été. On a le premier, la création, là, ce soir à Montpellier. Après, on va à Saintes et à Périgueux.
Ah voilà, c'est ça.
Et
D'accord.
cet automne, donc on le reprend à Pontoise et à Versailles, et on va l'enregistrer à Versailles, à l'Opéra.
D'accord, c'est pour quel label?
C'est le label Ambronay Édition.
Ah d'accord, c'est toujours le.
Toujours,
D'accord,
oui.
d'accord, d'accord, d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Les différentes versions qui ont eu lieu avant, vous les avez regardées ou vous avez juste écouté? Ou il n'y a rien du tout
Les
qui reste?
versions
Non, mais les
de.
quelques versions qui ont été données déjà de IC, vous les avez vraiment entendues ou vu la partition adaptée ou pas du tout?
Ah,
Oui.
les premières versions de Détouche,
Non, non, non,
vous
là
voulez dire?
qui a été fait en
De
2007 et
l'Arconne?
autres. Oui, non, pas du tout, il n'y a rien du
Moi,
tout.
non, je n'avais pas assisté à ça,
D'accord,
donc ça ne me
monsieur.
dira. Je sais plus je sais pas dans quel cadre ça s'était passé,
D'accord.
mais.
Qu'est-ce que vous dire? Mais c'est votre première grande tragédie. Bon, c'est votre premier opéra baroque, je dirais.
Complet, on va dire,
Complet.
ouais, avec un effectif comme ça complet, c'est la première expérience. Parce que c'est vrai qu'avec l'ensemble des surprises, on a fait beaucoup d'effectifs un peu différents, de la musique de
Voire même
chambre.
des fois des tricks petits.
Ouais, ça nous arrive de
Les
faire des
Rameaux, les
concerts
concerts,
à
les trois,
trois.
les Rameaux, les concertos avec orgue,
Avec orgue.
c'est très petit
Bah
effectif.
oui, c'est ça, ouais. Donc ça nous arrivait aussi de faire des projets en orchestre où on était plus nombreux. Mais ce qu'on a fait aussi souvent, finalement, c'est des versions, on va dire, d'opéra de salon, où on était un par partie, donc une quinzaine de musiciens. On a fait ça avec un Détouche, mais je sais pas si vous l'aviez vu ce CD de la Lande des Détouches, c'était Les Éléments,
Oui,
de la Lande des Détouches. Et donc c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'aime bien toujours faire dans les versions de chambre. Je trouve ça assez sympa aussi parce que c'est très dynamique du coup. Et c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, de faire une version un peu plus grande quoi.
Et en tant que continuiste, vous aviez jamais participé à comment dire, des enregistrements d'opéra ou autre?
Si, ouais. Bah
Par
ici
exemple.
d'ailleurs, ici j'avais joué dans le Don Quichotte là
Ah oui, il y
il y
a
a deux ou
deux,
trois
trois
ans,
ans,
je sais
oui, c'est
plus,
ça.
2 ans je crois,
D'accord.
avec Hervé Niquet, ouais.
Ouais.
Parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai assez souvent travaillé, Hervé Niquet, qui est un peu du coup qui m'a un peu marqué, c'est vrai. Du coup dans le choix aussi, enfin dans mon travail sur la musique française quoi. J'avais bossé avec lui justement à l'Académie d'Ambronay il y a quelques années. Il y a peut-être maintenant, je sais plus, 6 ou 7 ans, sur du Rameau, enfin c'était de l'orchestre avec Rameau, et du coup ça a un peu, voilà, c'est comment dire, une esthétique qui m'a marqué en tout cas.
D'accord. Et au point de vue direction des chœurs, bon, vous avez dit que je crois votre frère dirigeait
Oui.
des chœurs, et vous, vous en avez dirigé ou pas du tout à faire?
Des chœurs, en fait, non, moi j'ai travaillé surtout de la direction avec de l'orchestre. Après, ça m'arrive très souvent de travailler avec des chanteurs, beaucoup avec des solistes. Et là, alors sur la version qu'on va faire là cet été, pour les trois concerts de cet été, c'est en fait un chœur de solistes.
D'accord.
Parce que finalement, ça correspond aussi assez bien à l'effectif que nous sommes. Donc ils sont moins nombreux qu'un chœur, mais ça donne quand même quelque chose d'assez dynamique. Et cet automne, quand on va l'enregistrer, ça sera avec le chœur des chantres du CMBV.
D'accord. Parce qu'en général, l'opéra, entre guillemets, l'opéra français, on mettra des guillemets, c'était pas comme les peu de chœurs qu'il y a en Italie, dans les opéras italiens, où c'était les solistes. Il y avait un chœur particulier, voire même des danses. On sait, il y avait beaucoup de danses, a priori,
dans Ah oui, alors il y a énormément de danses, oui.
Ouais.
Toutes les danses sont là. C'est vrai que vous
n'avez rien coupé, en gros.
Si, il y a quelques coupes, oui. Il y a quelques coupes quand même dans les danses. Parce que c'est vrai que c'était quand même fait pour être dansé, hein, avant tout, quoi. Mais j'en ai gardé quand même pas mal, parce qu'il y en a plein qui sont très intéressantes, et à ce fait, elles sont assez, courtes et intenses, quoi. Donc, on a...
C'est presque du rameau, là.
Ouais, c'est ça. En fait, tout s'enchaîne quand même assez vite, donc tout bouge. Je trouve qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, quoi. Mais c'est clair qu'il y avait de la danse. Enfin, en fait, dans tout opéra français, un peu, à l'époque, il fallait passer par là. Donc, toutes les pièces qui sont instrumentales sont faites pour être dansées. Ouais.
D'accord. Et là, vous revoyez l'effectif ou chaque fois vous variez en fonction de... Je suppose qu'il n'y a pas... Tout le monde ne joue pas...
Monde ne joue pas tout le temps. Alors, il y a des fois où Destouches lui-même a demandé des instrumentations. Et puis, il y a des fois où c'est moi qui aussi ai voulu colorer de telle ou telle façon, telle danse, avec soit que les cordes, ou les cordes et flûtes, ou alors des hautbois, enfin voilà.
Parce qu'un Destouches, il me semble l'avoir vu, j'ai travaillé tellement rapidement, c'est à 5 portées, et puis vous dépatouillez, c'est ça.
Oui, c'est ça, ouais.
Et puis vous étendez comme vous avez envie d'étendre.
Oui, exactement, on est à 5 portées encore. Ah là là, justement, dans le.
Mais Rameau, il n'en était pas loin des fois. Il me semble qu'il y a des œuvres où c'est encore comme ça. Hein.
En fait, ce qui change après, d'ailleurs, Destouches lui-même dans ses opéras d'après change, c'est qu'il y a une partie d'alto, on va dire, de la quinte, qui s'en va. En fait, qui était l'alto le plus grave. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, dans les partitions de Destouches, là, de la fin du XVIIe, donc de Huissé, on a la partie de dessus, on a ce qu'on peut appeler trois parties d'alto, qui sont haute, contre, taille et quinte, et la partie de basse.
C'est tout. Plus les voix éventuelles après. Les voix des chanteurs,
Ah oui, plus les voix des chanteurs, bien sûr. Oui, je veux dire pour l'orchestre, oui.
Et donc, c'est à vous, après, d'étendre comme
après,
vous l'entendez.
De toute façon, on a des choses qui nous disent à l'époque comment on faisait telle ou telle orchestration aussi. Hein. C'est-à-dire que les vents, quand les vents jouent, la plupart du temps, c'est sur la partie de dessus.
Ah, d'accord. Quel que soit le vent, le bois,
hautbois et flûtes, ouais. Après, ça peut arriver aussi, par exemple, qu'on prenne des flûtes, des plus grandes flûtes pour faire les parties de haute contre ou les parties de taille. Par exemple, il y a tout un passage de sommeil dans l'opéra d'Issée, là où on va faire ça, une sarabande du sommeil, qu'on fait avec trois tailles de flûte différentes, on va dire, en fait, justement sur les trois parties. Il y a des traversos qui sont en haut, il y a des flûtes à bec un peu plus graves qui sont sur la deuxième partie, et il y a une flûte basse qui est sur la partie du médium.
D'accord. Et dans le continuo, vous avez théorbe ou c'était plus à cette époque-là?
Oui, à cette époque-là, il y avait encore les théorbes. Ouais,
c'est vrai. C'est l'époque
où ça va commencer à changer.
Ouais,
c'est ça. Donc dans le 18e, c'est pour ça. Enfin, on le sait aussi avec toutes les écrits sur l'opéra. Il y a vraiment un moment où il en reste plus qu'un, alors qu'avant il y en avait deux ou trois. Il y a un moment où il en reste un petit peu un, et puis hop, après il disparaît complètement. Donc chez Rameau, on n'a plus clairement plus de théorbe. Mais chez Destouches, oui, on est encore sur... Là, on a deux théorbes, et puis deux clavecins, en fait. Parce que donc, il y a un claveciniste qui est le continuiste pour tout l'opéra, et moi, je fais les continuos quand j'en ai le temps.
Oui, parce qu'il faut tout faire, là.
Il faut s'y diriger, mais, oui. Mais c'est vrai que, disons que c'est assez plaisant pour moi de continuer à faire les continuos.
Parce qu'on est à l'époque où justement le chef, il n'était pas tout à fait là, tout en état là.
Oui.
Enfin, c'était ambigu. Hein.
C'était ambigu. Après, c'est vrai que finalement, ça servait surtout parce que c'était du scénique. Donc, oui. Comme l'orchestre était sur une devant et que les chanteurs étaient sur le plateau, il fallait bien quelqu'un pour raccorder tout le monde, quoi.
Et il n'y avait plus de, comme sous Lully, on ne tapait plus avec la...
On l'appelle quand même toujours le batteur de musique, et apparemment, il avait quand même un...
Il en avait quand même
un. Et alors, ce n'était pas un bâton complet, mais c'était une sorte de petit, petit bâtonnet, pour montrer la mesure, quoi, juste.
D'accord.
Et c'était vraiment, on l'appelait le batteur de mesure, ouais.
D'accord, donc il y en avait chez Destouches,
à l'opéra, il y en a eu jusqu'à assez tard, hein.
D'accord.
Même à l'époque.
Mais là,
il n'y a rien de noté,
là.
Pour ce qu'il faut faire, non?
Non, parce qu'il tape les mesures. Et puis
c'est ça.
C'est-à-dire que tout le monde est tapé en même temps. C'est pas comme les opéras contemporains où ça part un peu dans tous les sens.
Dans les opéras, ça partait dans tous les sens, mais je pense que le chef.
Non, mais je veux dire, dans les partitions d'opéra, tout le monde n'a pas forcément la même mesure ou des choses comme ça, alors que là, c'était.
On est sur les mêmes mesures. Après, il y a des parties différentes pour tout le monde, mais oui.
D'accord. Donc vous avez appris beaucoup de choses à faire un tel
travail. Faire un tel travail, oui. C'est un travail assez complet, quoi. Ouais.
Et vous avez envie de continuer?
Évidemment. ça serait dommage de s'arrêter là.
Alors, c'est quoi les projets, justement, en général?
En général, alors...
Vous avez parlé d'embronné, d'accord, on a compris.
Donc, embronné, voilà, on va faire... et puis, je pense qu'on va continuer à faire ce programme-là avec Véronique Jans. Mm-hmm. En 2019, on a des projets avec de la musique française, sur de la musique sacrée, pour le coup, avec du Démarré, du Lully, et puis, justement, un parallèle entre ces motets et des cantates de Bach. Et puis, il y a un projet aussi avec le festival, en fait, c'est une commande du festival de Bruges, mmh, qui nous a demandé de faire une version un peu, enfin, une version allégée dans le sens avec un effectif plus petit du Pygmalion de Rameau, puisqu'en fait, ils voulaient nous rencontrer avec des danseurs.
D'accord.
Avec une compagnie de danse contemporaine flamande. Donc, ça, c'est des projets, disons, qui vont nous prendre beaucoup de temps après, parce qu'on continue à tourner aussi nos programmes en petit effectif. Et puis, dans le futur, justement, comme là, on a fait ce premier opéra assez important pour nous. Et puis, il sait, c'est vrai que ça fait un moment, par exemple, que le CMBV voulait le refaire entièrement. Et on réfléchit ensemble à la suite pour un autre opéra dans 2-3 ans. Quoi.
Alors, du coup, avec Pygmalion, vous allez vous frotter un peu à l'héritage discographique, si on peut dire comme ça, de Niké.
Oui, c'est vrai. Bah, ouais.
Parce que, bon, il a le meilleur enregistrement, on peut dire. Parce que le problème de celui de Leonard, bon, c'est le ténor qui, malheureusement, n'est pas à la hauteur.
Oui.
Ouais, qui habitait pas loin, d'ailleurs. Qui habitait pas loin. Oui, il était à Assas. John Elwes habitait à Assas, comme Scott Ross.
Ah, d'accord, voilà. Ah, oui, c'est
bref.
Copain de Scott Ross.
Mais
alors, il y en a eu un récent, je ne sais pas si vous avez entendu.
Il y en a eu un de. Il s'appelle Rousset.
Oui, c'est ça.
Celui-là.
Ouais. J'ai pas écouté d'ailleurs, mais.
Resté fervent de Niké.
Ouais, je comprends. D'accord, très bien.
Qui peut-être. Alors là, il faudrait bien regarder, j'ai pas eu le temps de tout comparer. Je pense que l'effectif orchestral, enfin l'orchestre de Niké est plus important que celui de.
D'accord, ouais.
À vérifier, je dis peut-être l'inverse, mais en fait, il me semble.
Okay. Voilà. Alors j'ai pas entendu, mais c'est vrai que le.
Il y a eu des bonnes critiques.
Critiques, ouais. Et puis c'est Cyril Dubois qui fait le rôle principal, j'ai vu.
Je me rappelle.
Il semble que c'est un. Mais d'ailleurs, il chante ici, Cyril Dubois, là, sur l'opéra Cassia.
D'accord, donc on le verra dans quelques jours.
Ouais.
D'accord. Bon, donc chef heureux.
Pour moi, oui. Hein.
Ouais. Pas de stress plus que ça.
Pour quand, pour dans la vie ou
non,
pour
là,
ce
là,
soir.
Là, pour ce soir.
Ah bah si, c'est quand même bon après du stress. C'est disons que c'est un moment important quoi pour nous. C'est un projet important. Donc c'est juste l'envie de le faire au mieux.
D'accord. Bon, ben à bientôt, se revoir à Mornay peut-être.
Hein. Bah oui, avec plaisir, ouais.
Voilà, c'était donc une interview avec Louis-Noël Bestion de Camboula. Ça ne nous en fait pas, nous le retrouverons pendant le festival d'Ambronay, puisque je dois le recroiser. Voilà, c'était donc cette pastorale héroïque IC qui a été donnée, non pas en première, puisque visiblement il y a eu quelques déjà reprises, mais c'est d'un enregistrement qui va paraître chez Ambronay. Alors rapidement, lundi 23, eh bien vous pouvez écouter les Chants de la Baltique au Corum. Vous avez encore quelques concerts de clavecin au Château d'Attas, François Guerrier et Frédéric Haas. Et mardi, vous aurez un concert avec Nemanja Radulovic, le célèbre violoniste, et vous écouterez du Tchaïkovski, du Khatchatourian. Et nous nous retrouverons mercredi sur la même chaîne de FM+. Et je remercie Stéphane à la technique. Bye bye.